Oui.
J'aurai encore deux annonces au moins. Je crois que ce vendredi, c'est le groupe des 30-50, c'est ça? Puisque c'était les jeunes la semaine dernière. Et aussi, je vais donc organiser une réunion de couple le 14 février, c'est un samedi. Et c'est Oana qui s'occupe de l'organisation, la femme de Jérémy. Et donc, les couples sont invités. Si vous êtes un couple marié, eh bien, vous serez bienvenus. Il y aura un goûter, ce sera dans l'après-midi. Oana, si vous n'avez pas eu d'invitation, parce qu'elle a déjà envoyé les invitations, venez me voir pour qu'on vous, on ait votre adresse. Et ce sera sur renouveler l'amour dans le couple. Et ce sera le but, c'est de justement remettre du feu, ranimer la flamme quand ce n'est pas le cas, quand il y a besoin. Et comment faire pour ranimer la flamme dans son couple? Voilà. Je crois que c'est tout pour les annonces que je voulais donner. Il y a une parole de Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, et versets 4 et 5. Jésus, au chapitre 9, versets 4 et 5 de Jean. « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Voilà, c'est une des paroles fameuses du Seigneur Jésus. « Je suis la lumière du monde. » Et là, il dit « La nuit vient où personne ne peut travailler. » De quelle nuit parlait-il? Il parlait du moment où les ténèbres allaient dominer momentanément, lorsque Jésus serait arrêté, lorsqu'il serait amené devant les autorités, condamné à mort et crucifié. C'était l'heure des ténèbres, l'heure où Satan pensait avoir gagné la guerre contre Dieu et le Messie. Mais nous savons la fin, nous savons que Christ est sorti victorieusement de la mort, il est ressuscité et Satan a été écrasé. Mais il y a ce temps où il dit « je ne pourrai pas travailler » parce que c'est l'heure des ténèbres. Et je pense que nous aussi nous sommes concernés par cela. Il y a un moment où c'est difficile de travailler lorsque la nuit est complète. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la grande tribulation, une période terrible du futur, où ce sera difficile, il y aura tellement de jugements, de fléaux, de corruption, d'atrocités sur la terre, que ce sera difficile, et c'est le moment maintenant, tandis qu'il fait jour, pour travailler. Nous voyons que les ténèbres augmentent, et nous avons vécu les semaines précédentes des attentats terribles à Paris, et cela a marqué non seulement les Français, mais aussi même le monde, hein. Le monde entier a été choqué par ce qui s'est passé. Et nous voyons les ténèbres qui avancent, l'ignorance, même parmi nos propres enfants, dont certains ont trouvé que c'était bien de faire ces attentats, c'était normal, ils le méritaient. Et puis, nous voyons l'ignorance sur Jésus-Christ lorsque les frères et sœurs font les sondages dans les universités. C'est effrayant de voir l'ignorance sur Dieu, sur la Bible, sur Jésus-Christ. On voit qu'il n'y a plus eu d'instruction religieuse et on est vraiment dans un monde qui devient de plus en plus sombre et qui fait peur d'ailleurs. Et il y a une autre parole que j'aimerais regarder maintenant dans Matthieu 5, verset 14, et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on s'attarde ce matin. Matthieu, chapitre 5, verset 14 à 16, et c'est Jésus qui parle encore. Cette fois-ci, il dit... Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Très souvent, Le Nouveau Testament dit aux disciples de Jésus-Christ, vous êtes cette lumière, vous êtes des témoins, vous devez éclairer ceux qui vous entourent. Il dit ici, vous êtes, vous les disciples, il s'adressait à ces disciples-là qui l'écoutaient. Il y a d'autres versets, j'aimerais vous les citer rapidement, dans le livre des Actes 1:8. Jésus, avant de monter au ciel, dit aux disciples réunis, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. » Voilà l'ordre de mission des disciples. Philippiens, chapitre 2, c'est Paul qui écrit 15 et 16, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Nous sommes appelés à briller comme des flambeaux dans les ténèbres. Hein. Un flambeau dans les ténèbres, ça se voit de très très loin. Pierre, l'épître de Pierre qu'il a écrite vers la fin de sa vie, au chapitre 2, verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Là encore, par notre vie, nos bonnes œuvres faites dans la volonté de Dieu, nous devons briller. Même si on nous calomnie, même si on nous traite de tout, on doit continuer à faire le bien. Apocalypse, chapitre 22, verset 11. « Que celui qui est injuste soit encore plus injuste. Que celui qui est souillé se souille encore plus. Mais que le juste pratique encore plus la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore plus. » Ça, c'est une phrase un peu énigmatique. On dirait que Dieu encourage à se souiller. Hein? Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est une phrase de la fin des temps où c'est une constatation, en fait. C'est que ceux qui vont choisir le mal vont s'enfoncer dans le mal. C'est un fait universel que quand on choisit le péché, on s'enfonce dans le péché. C'est comme un sable mouvant, le péché. Au début, vous mettez le pied, vous dites, bon, ben, ça va, ça me tient à peu près. Et puis, ça s'enfonce. Et puis, il dit, ah bon, là, je peux toujours sortir. Et puis, quand votre jambe est enfoncée dans les sables mouvants, vous ne pouvez plus sortir. Vous êtes aspiré. C'est horrible. Aspiré par le péché. Et que celui qui décide de se souiller, ben, il va se souiller encore plus. Les ténèbres vont augmenter, alors que celui qui se sanctifie, celui qui veut suivre la volonté de Dieu, il va falloir qu'il se purifie encore plus, qu'il soit encore plus lumineux, car plus les ténèbres augmentent, plus la lumière doit briller. Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde ». Et quand on entend ça, on peut avoir deux réactions. Une réaction d'orgueil d'abord, de dire « Merci Seigneur de reconnaître que je suis la lumière du monde, c'est vrai. Je suis une lumière, je suis quelqu'un de merveilleux, je suis quelqu'un de formidable, je fais des bonnes œuvres, ma réputation est extraordinaire. Et puis je suis chrétien, j'ai été élevé dans la religion, je ne suis pas comme tous ces païens et ces apostats. Moi je suis un chrétien de bonne famille, de tradition, et je suis au-dessus de la mêlée. Et je ne suis pas comme cette racaille ou ces jeunes dans les cités. Moi, je suis quelqu'un au-dessus. Et donc, ça, c'est l'orgueil absolu. Je suis la lumière du monde. Voilà, merci. Heureusement que je suis là. Avant moi, il y avait les ténèbres. Et après moi, il y aura encore les ténèbres. Ce n'est pas ce que Jésus veut nous dire ici. Il ne dit pas, vous êtes des gens merveilleux de la lumière du monde. Jésus le sait mieux que nous. Nous sommes des pécheurs, tous. Nous étions dans le péché, nous étions perdus, nous étions sans force face au mal, nous étions dignes de la condamnation du Dieu Saint, et c'est sa grâce qui nous a pardonnés. C'est par grâce que nous sommes pardonnés, nous n'avons rien mérité, et nous ne sommes pas au-dessus de l'humanité, nous sommes simplement peut-être différents, parce que nous sommes des enfants de Dieu, mais sûrement pas au-dessus. Alors qu'est-ce que ça veut dire, vous êtes la lumière? Mais on peut le prendre dans le sens inverse. Seigneur, ce que tu dis là, je veux bien, mais qui suis-je, moi, pour que tu me dises, vous êtes la lumière du monde, mais qui suis-je? Je ne suis qu'un petit chrétien, ma vie est bancale, j'ai des doutes, j'ai encore des péchés dans ma vie. Tu me dis, vous êtes la lumière, mais non, je refuse, je ne veux pas être cette lumière, Seigneur. Non, non, donne-le à quelqu'un d'autre. Oui, mais le problème, c'est que cette parole vient de Dieu, et elle dit, vous êtes. Elle ne dit pas, si vous voulez, ou si vous avez envie, ou si vous vous sentez digne. Jésus dit à tous les disciples de Jésus-Christ, vous êtes la lumière, que vous le vouliez ou non, que vous l'ayez choisi ou pas. Et en fait, c'est une responsabilité qui nous est confiée. Nous sommes des témoins. Et si le Seigneur nous a sauvés et laissés sur la terre, c'est pour être des témoins, des lumières. Bien sûr, la lumière ne vient pas de nous-mêmes. Nous ne faisons que réfléchir la lumière du Seigneur. Le Seigneur nous a éclairés, il nous a donné sa lumière, il est la lumière absolue. Mais nous, nous devons la réfléchir. Et nous devons éclairer ceux qui nous entourent. C'est vrai qu'on est indigne par nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas meilleurs que les autres, parce que nous étions dans les ténèbres, mais la Bible dit que le Seigneur nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous marchons dans la lumière, à la lumière de Christ et de la Bible. Une autre réaction qu'on pourrait avoir, c'est « je suis incapable d'éclairer qui que ce soit ». Je ne connais pas bien la Bible, je ne suis pas un grand chrétien, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un prédicateur, je ne suis même pas un missionnaire. Moi, qu'est-ce que je peux faire pour éclairer les autres? Franchement, je ne sais pas. Quand je parle, j'ai la bouche qui tremble. Mais ça ne vous fait pas penser à quelqu'un qui avait la bouche un peu embarrassée, hein? C'est Moïse. Moïse, c'était quelqu'un quand même, Moïse. Et c'est Moïse qui a dit à Dieu, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre, je ne peux pas parler, j'ai la bouche embarrassée. Et est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était une excuse? On ne le sait pas, la Bible ne le dit pas. Dieu lui a donné son frère à Aaron pour être son porte-parole. Et effectivement, c'est Aaron qui parlait pour Moïse. Et Moïse, lui, il avait l'autorité, la puissance de Dieu sur sa vie. Mais Dieu ne nous demande pas d'être des gens extraordinaires, d'être des orateurs hors pair, pour être des lumières. Une lumière, il dit, vous êtes la lumière. Et là, il y a quelque chose d'intéressant dans cette expression. Il ne dit pas, vous avez de la lumière. Il ne dit pas, vous devez éclairer par la lumière. Il dit, vous êtes la lumière. Ça veut dire que c'est ma vie, c'est mon caractère qui doit être lumineux. Pas juste mes actions, pas mon apparence. Parce que là encore, on peut dire, mais moi je suis toujours bien habillé, j'ai toujours la cravate, n'est-ce pas? Vous me voyez le dimanche, j'ai la cravate. Donc je suis une lumière parce que je suis bien habillé. Je suis bien rasé, hein, voilà, j'ai les cheveux coupés à peu près. Bon, voilà, là je suis une lumière. Non, ça c'est l'apparence. On peut avoir une belle apparence. Vous savez que les pires escrocs s'habillent, hein, de façon magnifique avec un beau costume et tout ça pour mentir aux gens. Et l'habit ne fait pas le moine, hein, ça c'est bien une expression française. La lumière, ça doit être à l'intérieur et ça doit sortir de l'intérieur. Est-ce que ma vie, est-ce que mon cœur est lumineux? Pour qu'il soit lumineux, il faut qu'il n'y ait plus de ténèbres, hein, dans mon cœur. Et il y a encore malheureusement trop de ténèbres parfois dans nos vies. Et des ténèbres, c'est-à-dire qu'il y a des pans entiers de notre vie qui ne sont pas à la lumière de Christ. Nous avons des moments pour Dieu et puis nous avons des moments pour le péché. Et ce n'est pas ce que Dieu a voulu en nous sauvant. Quand il nous a sauvés, c'était pour nous sauver de la condamnation future, de la colère, mais aussi pour nous sauver du péché, pour nous en sortir. C'est David, hein, dans le psaume, il dit « Tu as mis mes pieds sur le roc, tu m'as sorti de la boue et tu as mis dans ma bouche un cantique nouveau. » Est-ce que c'est vrai pour chacun de nous? Ou est-ce que nous avons encore beaucoup de ténèbres là? Et ça s'appelle la sanctification pour le chrétien, d'amener les ténèbres à la lumière. Dire « Seigneur, d'accord, éclaire mes ténèbres. Éclaire mes ténèbres. » C'est Jean qui nous rappelle que Dieu est lumière et que celui qui aime Dieu doit marcher dans la lumière et non pas dans les ténèbres. Il y a des personnes qui aiment les ténèbres parce que justement on peut se cacher pour faire le mal. Il y avait une ville américaine dont tout un quartier était vraiment malfamé, il y avait des cambriolages, des crimes, des trafics et tout ça. Et les habitants ont fait une pétition, ils ont demandé est-ce qu'on pourrait avoir de l'éclairage public partout dans notre quartier, mais vraiment des lampadaires dans tous les coins. On veut des lampadaires. Alors la ville a finalement cédé et elle a mis des lampadaires partout. Et le taux de criminalité a baissé fortement. Parce que ben, les brigands ne pouvaient plus travailler en cachette. Il fallait qu'ils aillent dans des endroits plus reculés. Et puis, quand il y a un moment, la mairie n'avait plus d'argent. Alors, ils ont éteint les lumières. Et le crime est recommencé, est remonté. Il y a vraiment quelque chose de fort avec la lumière et les ténèbres. Hein. Le mal aime les ténèbres. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être lumineux. On doit dire, Seigneur, voilà, il y a ça dans ma vie. Je pense que ça ne te plaît pas. Même j'en suis assez certain, parce que quand je lis la Bible et quand j'écoute le Saint-Esprit, il me montre bien que ça ne te plaît pas du tout. Et Seigneur, jusque-là, je n'ai pas écouté quand le Saint-Esprit me convainquait de péché. Quand je lisais un verset là-dessus, je passais à un autre passage, ou quand j'entendais un message sur cette question, je me bouchais un peu les oreilles. Maintenant, Seigneur, je suis prêt à faire face à ta lumière. Seigneur, éclaire cette partie de moi qui est ténébreuse. Parfois, il y a de l'amertume dans nos vies. Parfois, il y a l'amour du monde, l'amour du péché, tout simplement. Les péchés mignons, comme on les appelle. Parfois, il y a une rébellion contre Dieu qu'on a laissée là. Alors, à l'église, on chante les cantiques, mais à l'intérieur, il y a une rébellion. Il y a quelque chose, on ne veut pas obéir pleinement à Dieu. On sait que si Dieu nous disait... Mon enfant, je t'appelle à être missionnaire. On dit, oh là là, surtout pas, Seigneur. Ne m'appelle pas, ce n'est pas. Tu t'es trompé de personne. Parce qu'il y a en nous une peur, une rébellion contre Dieu. On n'est pas prêt vraiment à donner sa vie au Seigneur. Ça fait partie des ténèbres. Et il faut le mettre devant Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on les met devant Dieu que Dieu va nous appeler comme missionnaire, forcément. Hein. Dieu, il appelle selon sa souveraineté, son intelligence, sa sagesse. Il appelle aux missionnaires ceux qui veulent équiper pour cela. Mais on doit tous être prêts. On doit tous dire, Seigneur, je suis prêt à te suivre. Régulièrement, dans les pays africains, les chrétiens sont tués ou sont pourchassés pour leur foi. Et être chrétien là-bas, dans certains pays, c'est vraiment dangereux. Je pense au Niger ces jours-ci, où des dizaines d'églises ont été brûlées, des chrétiens attaqués pendant leur culte. Et il y a plein d'autres pays comme ça, Centrafrique, on en avait parlé. Nigeria, alors là, c'est bien sûr le pire, où toute la population est touchée. Mais un chrétien, il doit être prêt à aller jusqu'au bout. Il y a un cantique hein, dans les ailes de la foi qui dit « Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles ». Est-ce que je serai fidèle jusqu'à la mort? Est-ce que je suis prêt à souffrir pour le nom de Jésus-Christ? Les ténèbres augmentent, on ne sait pas ce qui nous attend, mais nous devons en tout cas être prêts à suivre le Seigneur et qu'il éclaire nos ténèbres. Il y a aussi, je reviens sur ces péchés mignons, parce qu'ils ne sont pas mignons du tout, nous le savons très bien, mais c'est comme ça que nous essayons de les présenter. Au fond, on dit que c'est un petit péché. Ce n'est pas comme tuer, mentir, voler, être infidèle. C'est vraiment des petites choses, tu sais, Seigneur. Mais le Seigneur nous dit, oui, c'est quand même un péché. Oui, mais je sais bien, mais il ne faut pas non plus être complètement borné. Voilà, être fanatique. Hein. Regarde les fanatiques, ce qu'ils font. Hein. Ils tuent les gens. Moi, je ne veux pas être fanatique. Je veux avoir un peu de yin et de yang. Hein. Y a des chrétiens qui mélangent l'hindouisme avec la foi chrétienne. Hein. Il faut un peu de yin et de yang, un peu de bien et de mal dans la vie. Ça met du piment, n'est-ce pas? Le mal met du piment, oui, mais pas n'importe quel piment. Hein. C'est le jalapeño, là, le pire, hein, celui qui vous brûle et qui vous détruit l'estomac et les intestins. Le mal n'est jamais bon. Le péché ne fait jamais du bien. Même si au départ, on a l'impression d'avoir une bonne sensation en péchant, il vous mord après, hein, c'est ce que la Bible dit. Il vous prend et il vous enfonce plus bas. Dans la destruction de votre âme. Il n'y a pas à mélanger le bien et le mal. Où on se donne au Seigneur, on est un enfant de Dieu. On marche comme j'avais lu dans Pierre, hein, des enfants de Dieu irrépréhensibles. Ça, c'est un grand mot. Irrépréhensible, ça veut dire on ne peut pas lui faire de reproches. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Personne n'est parfait sur la terre. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas lui trouver quelque chose qui ne va pas. C'est quelqu'un qui est vraiment obéissant à Dieu le plus possible dans sa vie. Il est temps qu'on soit ambitieux, hein, dans ces choses-là. Dire, Seigneur, je veux être consacré, je veux briller. Une lumière, vous savez, les lampes à pétrole, hein, il fallait tout le temps s'occuper de la mèche, parce que la mèche avait des cendres, et finalement, elle s'étouffe, hein, petit à petit. Et c'est les lampes à pétrole et les lampes à huile, comme ils avaient au temps du Seigneur Jésus, il fallait tout le temps travailler sur la mèche. Eh bien, nous, on a besoin de travailler sur notre mèche pour qu'elle soit tout le temps pure. Il faut enlever les cendres et qu'on puisse briller, éclairer. Aujourd'hui, les ténèbres sont morales. On ne sait plus ce qui est bien et mal. On ne sait plus ce qui est juste ou pas juste, vrai ou faux. Il y a vraiment une perdition dans ce sens-là, où pas seulement la jeunesse, mais les adultes. Depuis mai 68, on a tout envoyé balader, mais du coup, on ne sait plus ce qui est à l'endroit, à l'envers, ce qui est juste et bon, et on fait un peu au fur et à mesure. Il y a une ténèbre spirituelle. Les ténèbres spirituelles sont flagrantes avec les fanatiques, et puis avec aussi, justement, cette ignorance de la Bible ou de la religion, de la foi, de ce qu'est le vrai Dieu. On est frappé par, dans les sondages, les catholiques qui disent « Oh, je crois que Jésus n'est pas Dieu. Hein. » Donc, ils sont catholiques, normalement, dans la foi catholique, c'est bien enseigné que Jésus est Dieu, mais de moins en moins, ils croient. Et ça, c'est l'influence de l'islam, des témoins de Jéhovah aussi, qui l'ont martelé longtemps, et le martèlent encore. Et puis, c'est l'influence du matérialisme. C'est-à-dire, il n'y a rien de surnaturel. Donc, Jésus n'était qu'un simple homme. Hein. Il était un rabbin ou une sorte de révolutionnaire extraordinaire. Mais quand vous lisez les évangiles, Jésus ne peut pas être un révolutionnaire extraordinaire. Il n'a rien à voir avec un révolutionnaire ou avec un rabbin ou un simple homme. Il fait des choses extraordinaires, surnaturelles. Et il est présenté, depuis le début de la Bible jusqu'à la fin, comme le Fils de Dieu, l'envoyé. Dieu fait homme, Dieu fait chair. Mais il y a une ignorance sur la personne de Jésus, sur la foi. Il y a une perte de sens. À quoi sert ma vie? Où est-ce que va ma vie? Est-ce qu'il faut que je travaille? Est-ce qu'il faut que je fasse de l'humanitaire? Est-ce qu'il faut que je sois un artiste? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Et les gens ne savent plus où aller. Ésaïe avait dit, on appelle le mal bien. Et on appelle le bien mal. Quelle est la lumière du chrétien? La lumière du chrétien, c'est justement d'avoir des convictions claires. Et non pas de les marteler à coups de marteau sur la tête des gens, mais de pouvoir se défendre avec douceur et respect de ce que nous croyons. Nous avons des convictions, ça c'est notre première lumière. Nous savons ce que nous croyons. C'est ça qui m'a frappé quand j'étais à l'église catholique dans mon enfance, c'est que j'apprenais des choses par cœur, mais je ne savais pas pourquoi on les faisait ni pourquoi on les croyait. Je n'avais jamais le pourquoi. Et quand quelqu'un osait demander, moi je n'osais pas demander, mais quand quelqu'un disait, on disait, mais tu sais, c'est un mystère. Toujours la réponse, c'est un mystère. Donc ben, vous finissez par vous dire, ben, tout est mystère, donc Dieu est un mystère. Et finalement, quand vous avez 14, 15 ans ou 15, 16 ans, vous dites, ben, les mystères, ça va un moment, mais moi je veux du concret. Donc, bye bye. Combien ont quitté la foi à l'adolescence parce qu'ils n'avaient pas de réponse? Parce qu'on ne leur donnait pas des convictions. Et c'est à nous, enfants de Dieu, d'avoir des convictions. Vous me dites, mais moi je n'ai pas fait d'études théologiques. Je ne suis pas allé à l'Institut biblique, mais il n'y a pas besoin de faire des études théologiques de 3 ans pour avoir des convictions. Il faut déjà croire ce que vous lisez, ce que vous connaissez. Et comment avoir des convictions? Mais il faut avoir la foi que la Bible est la parole de Dieu déjà. C'est la première conviction à avoir. La Bible est inspirée de Dieu. Et ce qui est écrit dans la Bible est la vérité qui vient de Dieu. Et si Dieu l'a dit, je le crois. Bien sûr, il ne faut pas le croire d'une façon bête et méchante, en prenant des versets comme ça tout seul, sans leur contexte. Il y a toujours un contexte. Il y a toute la Bible qui est le contexte. Mais néanmoins, on doit avoir des convictions. Et puis, l'autre lumière qu'on doit avoir, bien sûr, c'est l'amour de Dieu. De plus en plus, on a besoin de répéter que Dieu est amour. Et de le montrer. Il y a vraiment cette idée chez beaucoup de nos compatriotes que Dieu ne les aime pas. Quand on vit loin de Dieu, moi j'étais athée pendant plusieurs années, je pensais que Dieu me haïssait et moi j'étais ennemi de Dieu, donc je me disais lui aussi il est mon ennemi. Et je suis son ennemi, on est ennemi, donc n'en parlons pas. Et je ne voulais pas qu'on me parle de Dieu et j'étais fermé à l'évangile totalement. Parce que je vivais dans le péché, je le savais, mais je savais que de toute façon, la Bible et Dieu ne voulaient pas m'encourager dans ce sens. Jusqu'au jour où mon péché m'a tellement dégoûté que j'ai commencé à tendre l'oreille et dire « mais il n'y a pas une réponse quelque part, il n'y a pas une pureté, une vérité, un vrai amour ». Et là, je suis retombé sur Jésus-Christ et sur la Bible. Mais beaucoup pensent que Dieu ne les aime pas. Et ce qui est extraordinaire dans le message de l'Évangile, c'est que Dieu aime les pécheurs. Même si les pécheurs ne l'aiment pas, même si les gens haïssent Dieu, même s'ils l'insultent, même s'ils blasphèment, hein, c'est en ce moment le grand thème dans les actualités, le blasphème. Jésus a dit « tout blasphème pourra ou sera pardonné ». Sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus a dit ça? Ça veut dire que quelqu'un peut blasphémer contre Dieu, peut blasphémer contre Jésus, et un jour être sauvé, pardonné, quand il se repent. Quand Jésus a été crucifié, est-ce que ce n'était pas le pire des blasphèmes de crucifier le Fils de Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils ne se rendent pas compte de qui ils crucifient, et ce qu'ils font exactement là, l'implication de leurs gestes. Et il y a beaucoup de gens qui vivent dans le péché, qui insultent Dieu, qui blasphèment, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont aveuglés justement par ces ténèbres. Et c'est à nous d'apporter un éclairage, une lumière. Il y a autre chose dans la vie que le péché, que le vice, que le mensonge. Il y a autre chose que la dépression, autre chose que le meurtre ou l'amertume ou la violence, il y a l'amour de Dieu. Dieu t'aime toi pour ce que tu es. Et même si tu es pécheur, il t'aime quand même, il te cherche. Il veut enlever le péché de ta vie et il veut qu'on voit le vrai toi, le toi purifié, le toi né de nouveau. C'est le message qu'on doit apporter et c'est la lumière qu'on doit donner. Et puis bien sûr, il y a nos œuvres. Verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les enfants de Dieu doivent faire du bien. Tout le temps. On doit tout le temps être en train de faire du bien. Ça ne doit pas être quelque chose comme on faisait, vous savez, dans le temps, les béats, hein, ou les bonnes actions. Est-ce que tu as fait ta béa? Alors, la béa, ça veut dire que tous les jours, on se dit, bon, il faut que je fasse une bonne action. Alors, il n'y a pas un aveugle qui traîne, je vais le faire traverser. Il n'y a pas un mendiant, je vais lui donner une pièce. Ah, ça y est, j'ai donné ma pièce, j'ai fait ma béa. Maintenant, je peux être exécrable avec tout le reste de l'humanité. Non, ce n'est pas ça, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est faire du bien. C'est avoir l'amour de Dieu qui me dit, comment je peux faire du bien à cette personne, à celui-là, à celle-ci. Tout le temps. Jésus, est-ce qu'il faisait du bien de temps en temps? Il était tout le temps en train de faire du bien. Chaque minute de sa vie était consacrée à bénir, à faire du bien. Et nous devons avoir cette attitude. Et ici, il le dit au pluriel. Hein? La ville, vous êtes la lumière, c'est pluriel. Une ville sur une montagne peut être cachée. Et en tant qu'église aussi, en tant qu'assemblée, on doit faire du bien ensemble. On doit être unis pour prier pour les autres, pour faire du bien, pour annoncer l'évangile. Le meilleur bien qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de lui expliquer comment il peut connaître Dieu et être réconcilié avec Dieu. De lui expliquer l'amour de Dieu pour lui, que Dieu est venu en personne, en la personne de Jésus, il y a 2000 ans. Que Dieu ne l'a pas laissé tomber, non, il est venu pour lui, pour elle. Et ça, c'est l'évangile merveilleux de Christ. J'aimerais terminer avec cette histoire qui est un peu d'actualité sur quelqu'un qui a été une lumière. C'est l'histoire de Louis Zamperini. C'est ce héros d'un film récent qui est sorti la semaine dernière de Angelina Jolie. Angelina Jolie avait à Los Angeles ce vieil homme pour voisin et elle a fait sa connaissance, M. Louis Zamperini, et s'est rendu compte qu'il avait eu une vie extraordinaire. Et elle a lu sa biographie écrite par Laura Hillenbrand et elle s'est dit, il faut que je fasse un film sur sa vie, c'est tellement extraordinaire. Et donc elle a réalisé ce film qui s'appelle Invincible. Et c'est l'histoire de cet homme, il lui est arrivé plein de choses, notamment il a passé plusieurs années dans un camp de concentration japonais où il a été le bouc émissaire d'un des gardes qu'il a torturé jour et nuit pendant des années. Et quand il est revenu, il a participé à l'équipe olympique américaine de course. Il n'a pas été un grand champion, mais quand même, ce n'est pas tout le monde qui est dans l'équipe olympique, qui a fait des années dans un camp de concentration. Enfin, puis il lui est arrivé plein de choses à cet homme et à chaque fois, il s'en sortait avec une volonté, une force. Et donc, elle l'appelle l'invincible parce qu'il est extraordinaire. Ce qui est malheureux, c'est qu'elle a négligé le reste de sa vie. C'est qu'il n'était pas du tout invincible, Louis Zamperini. C'est que lorsqu'il était encore aux Jeux, dans l'équipe olympique, il s'est mis à boire. L'équipe olympique, croyez-le ou non, avait un libre accès dans les bars de la ville. Il pouvait boire aux frais de l'État. Et alors, il s'enivrait. Mais pourquoi il buvait, Louis Zamperini? Ce n'était pas juste pour s'amuser, c'est parce qu'il avait le syndrome des soldats qui reviennent du front. Qui s'appelle le syndrome post-traumatique, merci à notre commandant. Ce syndrome est quelque chose de terrible. Vous ne vous sentez plus chez vous, même avec votre famille, vous êtes différent, vous vous dites, mais c'est pas possible, j'ai changé, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vraiment un changement profond. Et il avait un tel malaise qu'il s'est mis à boire et à être vraiment dur, méchant. Bien sûr, l'alcool aussi peut rendre comme ça. Et il était heureusement marié. Et sa femme a commencé à souffrir de cette... Il avait des cauchemars terribles. Et une nuit, il a commencé à étrangler sa femme dans un cauchemar. Il rêvait qu'il étranglait son bourreau, vous savez, du camp. Et sa femme a dû crier, quand elle pouvait. Et finalement, il s'est réveillé. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais elle dit, t'es en train de m'étrangler. Il dit, mais j'ai rêvé que j'étranglais mon bourreau. Et en fait, il avait une obsession avec ce bourreau et il était dans une amertume. Il rêvait, son rêve absolu, c'était d'aller au Japon, d'aller torturer à son tour ce gars. C'était le but de sa vie. Voilà. Et un jour, à Los Angeles, il y a un évangéliste qui a commencé son ministère public, il s'appelait Billy Graham. Il a loué une immense tente qui contenait plusieurs milliers de personnes et il a eu l'appui d'un mania de la presse qui l'a mis en première page de tous les journaux de la ville. Et donc, tout le monde a entendu parler de Billy Graham, l'évangéliste, qui vient prêcher à Los Angeles. Et cette femme, elle était tellement souffrante de voir son mari comme ça, et elle-même, elle souffrait, et elle voulait divorcer d'ailleurs. Elle avait dit à son mari, j'en peux plus, je vais te quitter. Elle est allée à une soirée entendre l'évangile. Et là, Billy Graham prêchait l'évangile, tout simplement. Christ vous aime, il est mort pour vous. Vous êtes pécheurs, vous êtes perdus, séparés de Dieu, mais Christ est venu vous sortir de là. Et elle a été vraiment touchée de plein fouet et elle a reçu Jésus-Christ ce jour-là. Elle s'est avancée et elle a demandé à Christ de la pardonner, de la sauver. Elle est rentrée dans une joie ineffable. Et son mari a remarqué, il a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, écoute, j'ai été écouter l'évangéliste Billy Graham et j'ai reçu Jésus-Christ et je suis sauvé. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces histoires encore de religion? J'espère que tu ne vas pas me bassiner avec tous ces trucs là, ça suffit. Mais elle dit, mais c'est merveilleux. Et puis, dans les jours qui viennent, elle était vraiment aimante avec lui, et elle s'approchait de lui. Et même, alors là, ça l'a frappé, lui, elle lui a dit, écoute, je ne veux plus divorcer. Il dit, ah bon, tu ne veux plus divorcer? Pourtant, moi, je n'ai pas changé. Elle dit, oui, toi, oui, tu n'as pas changé, mais moi, j'ai changé. Et Dieu a renouvelé mon amour pour toi et je prie pour toi. Oh, laisse-moi avec tes histoires. Et il continuait à s'enfoncer dans son alcool, dans son amertume. Et cette épouse, vraiment persévérante, a dit, il faut que tu viennes avec moi écouter l'évangéliste. Il est encore là pendant plusieurs semaines, il faut que tu viennes. Pas question que je mette les pieds. On connaît ces prédicateurs sous la tente, c'est des escrocs. Et effectivement, il y avait pas mal d'escrocs qui régnaient là-bas aux États-Unis sous la tente, qui faisaient des pseudo-miracles et tout ça, qui ramassaient surtout beaucoup d'argent. Sauf que Billy Graham n'était pas un escroc, mais lui, il mettait tout le monde dans le même panier. Et elle a persévéré. Tous les jours, elle disait, tu veux pas venir avec moi ce soir? Je vais retourner à la réunion de Billy Graham. Mais laisse-moi tranquille avec ton Billy Graham. Laisse-moi. Et elle avait tellement d'amour pour son mari qui venait de Dieu qu'elle a réussi à le fatiguer et qu'il accepte de venir. Et donc, il a dit, d'accord, je viens. Mais alors, attention, je te préviens. Au moment où l'évangéliste va dire, nous allons maintenant baisser la tête et courber nos coups et pour prier, je quitte la salle. Parce que je connais ces histoires, on va baisser la tête et puis après il va m'hypnotiser ou je ne sais pas quoi. Donc, ils arrivent, il écoute le message et lui, il est vraiment dur, hein, ça rebondit. Bon. Et puis arrive la fin et l'évangéliste dit, maintenant, chers amis, si vous voulez bien baisser la tête, ah, il se lève, il s'en va. Vous savez, mais pas discrètement, hein, pour bien montrer son mécontentement. Et il va dans la voiture. Sa femme attend la fin et puis elle le rejoint. Il dit, je t'avais dit, hein, et ne m'amène plus jamais dans un endroit pareil. Mais vraiment, c'était un gars, il était devenu dur. Et sa femme était toujours pareille. Elle a persévéré, elle a prié. Le lendemain, personnellement, moi, je n'aurais pas osé le faire. Le lendemain, elle lui dit, est-ce que tu ne veux pas revenir avec moi écouter? Il dit, mais ce n'est pas possible. Tu me persécutes avec... Il dit, écoute, tu as entendu, mais tu n'étais pas prêt encore à bien l'entendre. Reviens, je suis sûr qu'il y a quelque chose pour toi ce soir. Et elle a réussi à le traîner, hein, on peut dire. Mais il dit, je te repréviens, au moment où il dit, vous baissez la tête, je m'en vais. Et je ne reviendrai, je mettrai plus jamais les pieds dans cette tente. D'accord, viens. Alors là, il vient. Et là, dans le message, il y a quelque chose qui l'interpelle quand même. Et puis à la fin, l'évangéliste dit, baissez la tête, nous allons prier. Il se lève, il va dans l'allée. Tout le monde était là en position de prière. Et lui, il marche et il arrive dans l'allée. Et à un moment, l'évangéliste, tout en priant, il dit, il parle des gens qui sont au bout, des gens qui sont vraiment totalement perdus dans le péché et qui ne savent plus où trouver la sortie. Et là, il se dit, c'est moi. Et en quelques secondes, le Saint-Esprit a touché cet homme. Tout est revenu en même temps dans sa tête. Il s'est rappelé que pendant la guerre, il avait prié Dieu un moment, « Si tu me sors de là, et notamment dans son camp, si tu me sors de ce camp, je te donne ma vie. » Vous savez, c'est une prière que font beaucoup les gens quand ils sont en détresse. Hein. Et il se rend compte qu'il a oublié cette prière et cette promesse quelque part. Et puis, il pense à toute son amertume, sa haine. Il dit, mais c'est dégoûtant cette haine que j'ai pour ce gars qui m'a torturé. Et je me dégoûte, je suis un alcoolique, je suis un vaurien. Et il a été convaincu de pécher là, debout. Alors que tout le monde priait, lui il était là. Et c'est lui qui était vraiment convaincu de pécher. Et quand l'évangéliste a dit, tous ceux qui veulent prier, venez devant et on va prier avec vous. Il est allé. Et ce soir-là, il est devenu un vrai chrétien. Il a reçu le Seigneur. Et il a raconté à sa femme, il a dit, écoute, quelques jours après, du moment où j'ai reçu le Seigneur, l'alcool s'était terminé. La haine pour ce Japonais s'était absolument terminée et mes cauchemars sont terminés, je n'ai plus aucun cauchemar. C'est quelque chose de rare parce que les syndromes post-traumatiques, il faut des années et encore des fois, on ne guérit jamais vraiment. Mais lui, il a été guéri instantanément de l'alcoolisme, du syndrome post-traumatique. Et cet homme qui n'était vraiment pas invincible du tout, hein, je veux dire, le fait qu'il ait capitulé devant Dieu, justement, ça a été son salut. Et il a vécu jusqu'à la fin de ses jours. Billy Graham lui a demandé de l'accompagner, de donner son témoignage dans ses réunions. Et au début, il dit non, non, non. Et puis finalement, Dieu l'a touché, il l'a appelé et il a fait le tour du monde avec Billy Graham pour donner son témoignage dans les réunions. Et c'est comme ça qu'une biographe s'est intéressée à lui. Vous ne verrez pas tout ça dans le film, malheureusement. C'est dommage, Hollywood ne s'intéresse pas à la foi, à la vraie foi. Hein. S'intéresse à la foi, mais pas à la vraie. Mais cette histoire est touchante parce que cette femme a été une lumière dans la vie de cet homme. Je pense aux frères et sœurs qui ont un conjoint qui n'est pas croyant. Je pense à vous qui avez peut-être un membre de votre famille ou un ami ou un voisin, une voisine, un collègue qui n'est pas au Seigneur. Soyez sa lumière. Dieu vous appelle. Soyez un petit peu des fois persévérant aussi. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai peur de déranger les gens, mais la lumière, elle est conduite par le Seigneur. On ne parle pas de nous, on n'attire pas les gens à nous-mêmes. On les conduit vers Christ. Les gens marchent dans les ténèbres, ils tâtonnent, ils ne savent pas où aller dans leur vie. Ils vont pas nous le dire forcément. Si on leur dit « Comment ça va ?»« Mais tout va bien. » Et ton travail, bah, c'est pas bien. Ouais. Et puis à la maison, à l'intérieur, c'est le chaos. Chaos total. Nous, on ne voit pas ça. Mais Dieu le voit. Et il faut qu'on soit cette lumière et qu'on leur indique le chemin. La Bible est la lumière sur mon sentier, dit la Bible. Hein. Et Christ est la lumière du monde. Et nous sommes appelés à être des lumières. Que le Seigneur nous aide à être ses témoins et que beaucoup de gens autour de nous reçoivent le Seigneur, soient sauvés, soient guéris de leurs maux et de leur perdition. On va terminer par la prière, on va incliner nos têtes. Vous avez le droit de vous lever, de partir à ce moment-là. Mais si nous nous inclinons, c'est pour reconnaître que Dieu est plus grand que nous, pour avoir une attitude humble devant lui, devant notre Créateur. Nous sommes pécheurs, il est saint. Nous sommes petits, il est grand. Nous sommes vraiment, nous connaissons peu de choses et lui, il est omniscient. Et Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. Nous prions que ton esprit, ton Saint-Esprit, nous remplisse. Qu'il éclaire toutes nos ténèbres et qu'il les enlève, qu'il les chasse, comme la lumière chasse les ténèbres immédiatement. Je prie, Seigneur, et je te remets mes parties ténébreuses, Seigneur. Voilà ces coins, ces recoins où ta lumière n'est pas allée. Seigneur, je veux les mettre à ta lumière, à la lumière de ta parole. Je prie, Seigneur, que chacun de nous soit une lumière. Je prie aussi que tu nous donnes des convictions fondées sur ta parole, qu'on sache ce qu'on croit et pourquoi on le croit. Et je prie, Seigneur, que nous puissions éclairer nos conjoints, nos parents, nos enfants, nos collègues, nos voisins, nos compatriotes tout autour de nous, les pires des pécheurs, Seigneur, même ces personnes prises dans le fanatisme musulman, eh bien qu'on puisse leur apporter la lumière de Christ. Seigneur, nous te prions pour ce monde et pour ce pays, afin que ta lumière brille encore, tant qu'il en est temps. Je prie pour les chrétiens qui ont le Saint-Esprit dans ce pays, qui se réveillent et qu'ils brillent, qu'ils reviennent à ta parole et qu'ils se consacrent à toi. Tous les chrétiens endormis, Seigneur, que tu les ranimes dans leur foi. Je prie aussi, Seigneur, pour nos autorités, que tu leur donnes la sagesse dans les décisions à prendre. Et vraiment, c'est toi le sage et nous prions que tu les conduises. Te demandons aussi pour nos policiers et nos militaires, Seigneur, que tu les protèges et que tu les gardes aussi dans leur travail qui est de plus en plus difficile. Que tu sois avec eux lorsqu'ils sont sur le terrain, face aux dangers. Seigneur, particulièrement les chrétiens, que tu leur donnes ta paix, mais aussi ceux qui ne sont pas chrétiens, Seigneur, qu'ils puissent se tourner vers toi dans ces situations dramatiques. Nous prions pour les policiers en particulier qui se suicident nombreux. Nous te demandons qu'ils trouvent auprès de toi la réponse et le salut. Et nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.